I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Pierre Guyonnet, responsable de la communication et de la RSE au Grand Prix de France de Formule 1. Bonjour Pierre.
Bonjour Alexis.
Donc c'est un plaisir de t'accueillir pour le podcast L'Entertainment Lab. Donc c'est sous le signe forcément du sport, de la passion, de la communication. Tout d'abord, comment t'es arrivé, t'es tombé dans le bain de la Formule 1 ?
Alors comment je suis tombé dans le bain de la Formule 1 ? Écoute, c'est très simple. J'avais un stage de fin d'études à la suite d'une école de commerce à faire et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire dans quelque chose qui me passionne. Et cette passion, forcément, elle est souvent familiale. Donc, c'est une passion qui vient de mes parents, même des deux, passionnés de sport automobile.
Spectateur ou coureur ?
Alors, mon père coureur, mais plutôt rallye, plutôt rallye raid, course historique. Donc, il en avait fait pas mal et j'ai toujours vu des voitures à la maison.
D'accord.
Donc, cette passion, elle vient de là. Et pourquoi pas, à l'époque, je me dis, il faut absolument que j'allie passion et travail. Et donc, je postule à la FIA pour faire un stage de fin d'études, donc la Fédération Internationale de l'Automobile. Et je commence là-bas en 2015. Voilà.
Ah bah c'est une sacrée histoire. Donc comme quoi, quand on peut être très jeune, on a une volonté, on va dans des voies, parce que c'est quand même pas le choix traditionnel après une école de commerce.
Non, c'est pas forcément le choix traditionnel, mais en tout cas le choix qui reste assez traditionnel, c'est de dire bon, écoute, je vais passer du temps à travailler. J'ai 25 ans ou je sais plus, ouais, j'ai 24 ans.
Je veux pas m'ennuyer,
quoi. Commençons par quand même
quelque chose qui me plaît.
Quelque chose qui me plaît et un métier plaisir. Et puis après, c'est effectivement après, c'est un long sujet. D'avoir la chance d'intégrer. Parce qu'en plus, je fais une candidature spontanée. Mm-hmm. Donc, le fait de rejoindre la FIA en candidature spontanée, c'était plutôt sympa. Donc,
une belle histoire.
Ouais.
Bah, super. Donc, tu as travaillé 5 ans à la Fédération Internationale de l'Automobile, donc là où tu as fait tes classes. Ça a été quoi ton apprentissage finalement au sein de cette fédération avant d'arriver au Grand Prix de France de Formule 1 ?
Écoute, il a été ultra complet parce que je suis arrivé en stage et jusqu'à la fin de mon expérience à la FIA, j'ai eu trois fonctions et j'ai fait beaucoup de choses différentes. Donc, je me suis occupé du digital, j'ai été en charge du digital pendant plus d'un an et demi. Après, j'ai été chargé de mission pour l'ancien président de la FIA qui s'appelle Jean Todt et j'ai été son coordinateur presse. Ça aussi, ultra.
C'est marquant parce que c'est une des figures marquantes de ce secteur, donc c'est une vraie opportunité pour quelqu'un. Tu étais avec quel âge à l'époque ? Tu avais très très jeune, non ?
J'avais 27 ans. Ouais, 27 ans.
En tout cas, moins de 30 ans.
J'avais moins de 30 ans.
T'étais pas impressionné parce que c'est quand même quelqu'un qui est une vraie figure de l'industrie ?
Ah si, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on a toujours vu à la télé, c'est quelqu'un qu'on a toujours suivi en tant que passionné. Effectivement, on se retrouver à travailler pour lui, il y a un sentiment de fierté, il y a un sentiment d'impression, mais il y a aussi une volonté d'être à la hauteur. Donc on met ça très vite de côté, on se concentre très rapidement.
Qu'est-ce qui t'a appris ? Alors c'est toujours bien de parler des menteurs comme ça, des personnes qui ont eu des vraies trajectoires. Qu'est-ce que lui, il t'a appris ? Bon, peut-être sur son exigence, sa perfection.
Oui, alors il m'a appris beaucoup de choses. Hein. Déjà sur ce qu'est le sport automobile dans sa globalité, qui sont les parties prenantes, pourquoi le sport automobile, pourquoi avant, pourquoi maintenant, pourquoi après, les enjeux, etc. Donc déjà, en termes de sujet...
Une vraie connaissance du milieu du secteur. Quoi.
Une connaissance incroyable. Et puis après, sur des compétences, diverses compétences, effectivement, le sens du détail, la rigueur, et puis la volonté, la motivation, toujours vouloir se dépasser. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris de ce côté-là. Et puis, gestion du stress, ne pas réagir sous l'émotion. Vraiment, je retire une très, très... c'était d'une grande richesse, cette expérience-là.
Apprentissage très humain aussi, quoi, qui t'a appris à progresser personnellement.
Ouais, totalement. Ouais. C'est,
ouais, très intéressant. Et donc aujourd'hui, tu t'occupes de la communication et du RSE au Grand Prix de France de Formule 1. Est-ce que tu peux parler justement de ton action et de la spécificité, je dirais, d'une action communication au sein de, d'une grande compétition sportive comme celle-là?
Alors, pour une grande compétition sportive comme celle-là, il faut rappeler déjà qu'on n'est pas beaucoup. On est 25 salariés, on va dire, à l'année. Après, bien sûr, on a des partenaires, on a des prestataires, on a des agences, on a toute une série de personnes qui nous accompagnent. Moi, ma mission principale, elle était, il y a deux angles. La première, c'était d'aller vendre du billet et de vendre des billets spectateurs principalement au grand public, et puis aussi d'assister la partie commerciale sur de l'entreprise et de l'hospitalité, donc du ticket VIP.
T'as quelle part entre du particulier et du pro en général?
C'est 90% en termes de chiffre d'affaires, ça va être 85%, 90%.
Part et 15% pro.
Ouais.
D'accord. Et ça représente combien de personnes à chaque Grand Prix qui finalement assistent? On parle de combien de
personnes? Alors cette année, on a accueilli plus de 200 000 personnes.
Ah quand même.
Ouais.
Et donc c'est au Castellet, dans le Var. Hein.
Exactement.
D'accord, coin que je connais un petit peu. Mais j'ai pas eu la chance d'assister au Castellet. Et quelle serait sa spécificité? Le Grand Prix du Castellet versus peut-être d'autres Grands Prix pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas tous des aficionados de la course automobile.
Alors le circuit Paul Ricard au Castellet, c'est un circuit qui est maintenant qui a plus de 50 ans, donc on peut considérer que c'est un circuit mythique. Le circuit Paul Ricard, il est reconnaissable. Il a une spécificité, c'est qu'il a des bandes rouge et bleu, et ce sont des bandes en fait qui sont des instruments de sécurité qui permettent de ralentir les véhicules, et il a toutes ces lignes bleues et rouges qui suivent tout le tracé du circuit.
D'accord.
Et d'ailleurs, ce circuit qui permet d'accueillir, enfin en tout cas d'avoir des centaines de configurations possibles, et donc il reçoit toute une série d'événements différents tout au long de l'année, dont le Grand Prix de France de Formule 1.
D'accord. Et c'est Paul Ricard, donc le fondateur de Pernod Ricard, qui avait participé au développement de ce
circuit. Exactement. Bah c'est lui qui l'a construit.
Donc c'est déjà du brand content. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui était chez une marque marquante, justement, qui a participé à ce développement.
Faudra en parler avec Pernod Ricard. Mais
c'était une passion qu'il avait personnelle, j'imagine, Paul Ricard.
Ouais, il avait cette passion-là. Je peux pas la tester. Faudrait demander aux gens de Pernod Ricard. Mais oui, il avait cette passion. Oui, il l'a bâti.
Il était du coin avec l'île de Bandor et tout ça. Donc,
il y a toujours, c'est la fameuse maison de Paul Ricard qu'on peut voir du circuit Paul Ricard. Et puis toute une série de pilotes de l'époque qui l'ont aidé à construire le circuit. Voilà.
Donc c'est quand même 200 000 personnes, ce qui est quand même énorme. Hein, faut les remplir quand même, les 200 000. Et donc les enjeux, donc tu vas être sur quel type de levier de communication? Donc tu as parlé du digital tout à l'heure, du social media. Est-ce que tu peux nous parler un peu des grandes actions pour préparer un tel événement, une telle communication?
Les grandes actions, effectivement, toute une série de en lien avec la billetterie, tout un calage d'ailleurs avant le Grand Prix, de définir bien les produits, de voir si on va faire évoluer ces produits-là, voir si on va les garder tels quels, et puis voir avec eux le pricing, parce que nous, faut savoir qu'on est
revenu. Quand tu dis produits, c'est tous les styles de billets qui existent dans le circuit, suivant qu'on soit plus ou moins bien placé, j'imagine.
Exactement, faut savoir que nous, on revient au calendrier en 2018 après 10 ans d'absence, donc en finale, notre clientèle en 2018, on ne la connaît pas.
D'accord.
Il y a tout à créer, à inventer. 2018, en plus, qui n'est pas forcément une année de référence, parce qu'on a eu des gros problèmes d'accès au circuit. Donc, on a été difficilement capable de fidéliser. Et donc, j'arrive en 2000.
Pour quelle raison? C'était quoi?
Des gros problèmes d'accès. C'est-à-dire
lié au terrain ou à la météo
Lié à toute une série de mauvaises fonctions et de parties prenantes qui font que...
Qui sont inhérentes à l'entretien de ce style de...
Voilà, il y a des gens qui ont mis des heures à venir le premier jour, ce qui a créé beaucoup de frustration. Et ce qui a créé aussi un taux de fidélité assez bas pour 2019.
C'est vrai que le Castellet, il faut quand même y accéder. Ouais. C'est quand même vraiment dans, au cœur du Var, on va dire.
Cette année, ça a particulièrement bien marché parce qu'on a vraiment adressé le problème depuis...
De gérer la desserte depuis 3 ans, avec les moyens de transport et d'anticiper tout cet aspect transport qui doit être clé, j'imagine.
On pourra en parler sur la partie RSE parce qu'on a vraiment développé un plan de mobilité qui est assez unique en D'accord. Europe et pour les grands événements sportifs français. Mais pour revenir sur... Si tu veux, je reviens sur la partie...
Bien sûr, communication pour faire venir.
Donc, tu te retrouves en 2019 à te dire, bon, bah voilà, en fait, on a une base à recréer, on a une image à redorer, on doit aller vendre tous ces billets-là. Et comment on fait ? Effectivement, on a fait beaucoup de test and learn. Donc, on a plusieurs leviers pour communiquer. On a effectivement des grosses campagnes digitales où on va cibler, on va cibler à travers... on va faire des choses assez classiques. Hein. Classique et non, parce qu'avant, on va faire un peu de programmatique, on va faire de l'achat de mots-clés, on va aussi tenter des choses et avec des partenaires privilégiés en allant cibler, par exemple, des gens qui vont passer leurs vacances dans le sud de la France à ce moment-là.
Sachant que la date exacte est quand dans l'été ?
Alors, ça a toujours été fin juin, sauf fin cette juin. Année où c'était en juillet.
D'accord. Donc c'est pratique quand on est dans le sud, ça peut être évidemment une animation qu'on peut avoir parallèle de ses vacances.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc des grosses campagnes digitales, et sachant que vous vendez sur le site, mais aussi vous êtes référencé, j'imagine, dans des sites partenaires.
Ouais, mais 90% de nos ventes proviennent de notre beurre web.
Bravo. Alors, directement sur votre plateforme e-commerce, qui a été développée depuis longtemps. Vous l'aviez depuis
2018.
Ouais. D'accord.
Il y a eu des grosses modifications il y a 2 ans sur créer vraiment une expérience utilisateur un peu plus intéressante, sur aller choisir vraiment au plus près sa place, voir ce que l'on pourra voir de cette place-là. On a vraiment poussé au plus loin, en tout cas, l'expérience utilisateur sur ce site-là.
D'accord, donc programmatique, donc j'imagine donc tout ce qui va être référencement, évidemment, des campagnes ciblées. Mm-hmm. Vous êtes allé aussi sur des campagnes vidéo, film ou du brand content, parce que là, vous avez quand même quelque chose qui est très visuel. Et en channel, on imagine Red Bull et tout ce qui peut se créer en termes de contenu autour du sport. Donc,
nous, on a une spécificité, c'est qu'on n'est pas détenteur des droits commerciaux, c'est-à-dire qu'on achète le droit d'avoir la Formule 1 en France, mais qu'on a une grosse limitation sur la partie vidéo.
D'accord.
En revanche, effectivement, on a créé un clip branding qu'on a pu utiliser à des fins de promotion sur diverses plateformes. Mais on l'a aussi utilisé beaucoup avec des partenaires médias et un en particulier... Canal+, qui est le diffuseur officiel de la Formule 1 en France.
D'accord. Oui, donc un partenariat média qui est naturel avec la Formule 1.
Voilà, beaucoup de partenariats médias, effectivement, aussi.
Ok. Et social media, vous êtes sur donc Grand Prix de France. Vous avez vos propres pages sociales.
Exactement.
D'accord. Et là, la communauté se développe. Comment tu vois le social media aussi là-dedans, dans ce mix, pour faire venir ou animer la communauté ?
On a aussi réalisé des opérations, on va dire, avec des nouveaux médias slash influenceurs, où on n'a jamais été dans le promotionnel, on n'a jamais été dans le commercial, mais en tout cas, on a fait beaucoup de redirections et beaucoup de vouloir monter la notoriété de mon compte. Moi, quand j'arrive, on part d'un compte Instagram qui est inexistant aujourd'hui. En cumulé, on a, alors ça peut paraître pas beaucoup, mais sur un sport de niche qui est la F1, ou en tout cas un sport qui est en pleine croissance, on est à 80 000 followers sur notre Instagram, par exemple. Et puis en cumulé, on est à 160 000 avec Facebook et Twitter. Ce qui est d'ailleurs, si on doit le comparer avec d'autres grands prix, on est dans le tiers supérieur des grands prix avec le plus de la communauté, d'une part la plus grosse, et deuxièmement, avec le plus d'engagement, parce que vraiment la clé pour nous, c'était de se dire, voilà, on peut créer une communauté, mais créons une communauté saine. Soyons smart, parce que on est certain que à long terme, ça va forcément avoir un côté héroïste. Et aujourd'hui, on est capable de mesurer que les actions social media, le ROI est d'une part ultra intéressant et représente une partie intéressante de notre chiffre d'affaires.
Alors j'imagine les enjeux, comme nous on travaillait beaucoup avec des salons ou des événements, c'est un peu similaire d'ailleurs à l'enjeu d'un grand concert ou d'un très grand événement. Donc ça va être réussir à fidéliser des clients d'une allée sur l'autre. J'imagine toute la difficulté, c'est à chaque fois de repartir de zéro. Donc peut-être il y a des clientèles qui sont un peu plus aficionados, d'autres qui reviennent. Enfin, ça, je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus. J'imagine que ce n'est pas facile à avoir aussi ce type de données, mais à quel point un public finalement est fidèle et peut revenir d'année en année et suivre ce type de compétition.
Alors nous, c'est un peu particulier parce que chaque année, il y a eu des nouveaux faits qui nous ont empêchés d'aller, d'aller mesurer l'intégralité.
On n'a pas été aidés les trois dernières années. Alors, déjà.
Ouais, 2018, voilà, 2018, tu as ce problème de mobilité. 2019, on revient, on va dire, à une édition normale. 2020, elle est annulée. Donc on pourrait se baser sur 2019, 2020 annulé, 2021, on est en 15 000 personnes par jour dans 3 bulles de 5 000 personnes. On est d'ailleurs le premier grand événement sportif à recevoir autant de gens dans une période un peu compliquée.
Donc masqué, tout le monde masqué et tout ça, comment tout vous avez fait ça? C'est une prouesse de monter un événement dans ces contextes.
Beaucoup de travail avec les services de l'État. On est le premier grand événement sportif international à mettre en place, en tout cas à déclencher le pass sanitaire sur le sujet à l'époque. Et puis l'avantage, si tu veux, de la configuration d'un circuit, c'est que les tribunes sont éloignées, donc on pouvait créer des bulles différentes.
Ah, bravo, ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû lâcher, qui pensaient que le gros événement allait avoir lieu, et puis finalement, ils ont dû annuler. Donc c'est top d'avoir pu tenir et d'éviter ces contraintes.
Ça a été en tout cas une belle... La période Covid, on la vit bien, on l'a bien vécu parce qu'on a passé du temps en 2020 avec l'annulation. Effectivement, c'est dur pendant quelques jours de se dire qu'on n'aura pas d'événement, mais on a vraiment exploité ce temps-là pour tout repenser sur tous les sujets. Donc là, on parle de com, de RSE, un peu de marketing, mais on a vraiment tout remis à plat et repensé à tout sur notre Grand Prix. Et donc 2021, on réaccueille des gens. Et donc 2022...
Oui, voilà, tu parlais d'engagement et comment les éléments que tu avais en la matière.
Exactement. Mais il y a un point aussi fondamental, c'est qu'il y a eu une transformation dans la clientèle de la Formule 1. Je sais pas si vous... Je pense que des gens, en tout cas, qui nous écouteront, ont forcément regardé cette série qui est Drive to Survive sur Netflix.
D'accord, Drive to Survive. Voilà. Okay.
Qui était un carton fantastique sur Netflix, qui est une des top séries Netflix de ces dernières années. Et d'accord. Pendant le confinement, il y a eu une transformation, en tout cas,
De la perception du sport, c'est ça.
D'une part, la compréhension du sport, parce que c'est un sport qui est un peu confidentiel à la base.
Oui.
C'est un sport qui est un peu. Certains le considèrent d'élitiste, certains le considèrent un sport particulier. Moi, quand j'étais jeune, dans la cour de récré, quand je disais que je regardais la Formule 1, personne ne regardait.
Il y a un sujet peut-être de modernisation, parce que alors, moi aussi, je suis en génération, je pense, après toi, mais. Il y a peut-être un âge d'or des pros, des sénats, mais un peu qui est issu du passé, non ? Il y a peut-être ça à lever pour redonner une nouvelle fraîcheur au sport, en fait.
Bah justement, Netflix a permis de donner cette nouvelle fraîcheur.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on était sur une clientèle en tout cas de spectateurs et même une moyenne d'âge téléspectateurs.
Beaucoup plus jeunes, quoi. Ils ont rendu ça moderne. Quoi.
Exactement. D'accord. D'aller chercher de la génération Z.
Une saison, Drive to Survive ?
Je vais me faire taper sur les doigts, mais je crois qu'on est à la
quatrième quand même. Et si tu peux raconter pour les gens qui ne l'ont pas écouté, on sait bien, parce qu'en plus ça fait lien avec l'entertainment qui est notre thème, mais qu'est-ce qui t'a plu toi dans cette série?
Alors, en plus, il faut savoir qu'à l'époque, j'ai travaillé avec les équipes de Netflix, parce que j'étais à la FIA, j'étais responsable média. Donc,
parce qu'ils ont tourné en France partiellement, ils étaient...
Non, mais en fait, c'était dans mon ancienne expérience à la FIA où je faisais tous les Grands Prix, donc
d'accord.
J'étais avec l'équipe de prod. Ils ont permis en tout cas de... La Formule 1 était un monde assez feutré, c'était assez opaque, c'était très aseptisé sur les prises de parole, tout ce qui était montré, tout ce qui était diffusé. Netflix a permis de mettre une caméra à des endroits où normalement il n'y en a pas. Netflix,
ça fait un peu penser à 10% ce que tu dis. Ce qui s'est passé dans le cinéma, ils l'ont fait sur la Formule 1 finalement.
On est entre la télé-réalité,
ouais.
on est sur de la découverte vraiment de ce qu'est le sport. Parce que les
coulisses,
gens,
quoi.
Voilà,
ouais.
Les coulisses incroyables. Ça a été en tout cas une vraie révélation pour les gens, une vraie révélation pour montrer ce qu'est le sport. Donc c'est et puis ça correspond à toutes les
tout ce qui se passe dans ce milieu, quoi.
Tout ce qui se passe dans ce milieu, et ça correspond à toutes les phases du storytelling. Alors on va pas parler de Campbell et du héros aux mille visages, mais
ça donne envie de le voir en tout cas. Et donc ça reste assez humain aussi, parce que
c'est très humain. On a l'impression, voilà, c'est des acteurs récurrents, sont des c'est un TV show, mais dans la réalité.
T'avais vu le film aussi de Ron Howard avec Daniel Brühl sur les deux coureurs qui s'affrontaient là. C'était
Niki Lauda et James Hunt.
Tu l'as vu ce film?
Bien sûr.
Et t'as aimé aussi?
Bien sûr.
Et oui, parce que ça, ça m'avait marqué que Ron Howard y fasse ce film. C'est vrai que les images de télé ou de série ou de cinéma peuvent amener un autre regard. Et comme c'est intéressant que ça. Donc finalement, ça peut peut-être t'amener des publics plus jeunes, plus. Un peu first timer, comme on dit, sur ce type de compétition.
C'est ce qui s'est passé. D'où l'analyse de se dire aujourd'hui qui ont fait des listes, parce qu'on va dire que 2022 a été vraiment l'année, cette année a été vraiment l'année où.
Ça a rabattu les cartes.
Bon,
ça, c'est très intéressant que tu racontes ça sur les séries. Alors voilà, on arrive un peu au dernier tiers du podcast. Alors moi, ça m'intéresse ce que tu dis sur l'entertainment, parce que, alors là, je me mets un peu en prospective. Bon, ce qui est difficile, j'imagine, dans votre business, c'est que vous avez un temps fort à l'année. Bon, en même temps, il faut faire vivre toute l'année des communautés. Est-ce que toi, tu crois demain monter des programmes, ça peut être de e-learning, de masterclass, un modèle plus média finalement, qui fait que les gens pourront accéder à des contenus spécifiques? Enfin, j'imagine que tu réfléchis, ça m'intéresse de parler de ça avec toi, parce que tu sais qu'il y a eu l'essor des masterclass qui s'est passé aux États-Unis et sur l'e-learning qui se développe beaucoup. Et donc, voilà, comment tu vois ça sur comment finalement une expérience physique événementielle la rendre plus vivante à l'année avec des programmes ou des choses comme ça.
Alors il y a plusieurs choses effectivement. Par le passé, on a fait des roadshows, c'est-à-dire qu'on se déplaçait de ville en ville, on faisait des démonstrations de Formule 1. On s'est rendu compte que le produit n'était pas très héroïste et était très compliqué à monter, même si ça a été une expérience fantastique avec à l'époque Renault Sport. On réfléchit à des nouveaux sujets, effectivement tu le mentionnes, c'est d'exister tout au long de l'année. Parce que quand tu as un événement et que tu es uniquement présent pendant 3 jours, exister tout au long de l'année en dehors du contenu, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, l'avantage du sport automobile, c'est qu'ils se font bien dans le virtuel. Donc aujourd'hui, c'est de réfléchir à quelle typologie de nouvelles actions que tu pourrais mettre en place.
Donc ça peut être de l'immersif, du métaverse.
C'est exactement ça.
Voilà. On a nous interviewé le directeur retail de Facebook sur Meta. C'est vrai qu'il peut y avoir des nouvelles expériences virtuelles qui peuvent, j'imagine, qui sont propices à ce type de sport.
Est-ce que c'est un grand. Est-ce qu'on ajoute, on crée aussi. On l'avait un petit peu fait dans le passé, mais est-ce qu'on va plus loin? On peut créer de la détection de talent avec du e-sport. On peut et faire un tournoi. On peut exister dans le métaverse et refaire un Grand Prix de France virtuel qui permet aussi de. Ce qui permettrait aussi d'aller trouver des partenaires, puis d'être générateur de revenus, parce que c'est il faut aussi générer des revenus pour exister. Et puis plein de choses auxquelles on pense, comme ça.
Ça peut prolonger l'expérience et amener une diversification et des nouvelles expériences liées à tout ça. Alors c'est intéressant que tu sois sur tes communications et RSE, donc on va parler forcément un peu des RSE, parce que la Formule 1. Amène aussi des questions sur tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus sur peut-être la perception du sport actuel et ce qui peut évoluer dans la manière de l'envisager avec la RSE?
Alors, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas parce qu'on est en Formule 1 que c'est complètement antinomique avec RSE. Ça peut paraître complètement à l'opposé, mais
on va avoir... Il n'y a pas encore de Formule 1 électrique, j'imagine.
Il y a de la Formule électrique.
Ah, ça arrive.
depuis quelques années. Mais la Formule 1, aujourd'hui, elle s'oriente vers une typologie de motorisation avec du biocarburant.
D'accord. Ouais. Donc ça, c'est une tendance de fond qui est menée...
par Formula 1 et la FIA.
Tu peux citer quand même Formula 1 et FIA.
Oui, ouais, bien sûr. C'est,
et
c'est...
tu penses que ça peut devenir vraiment la norme? Enfin, ça peut devenir une tendance lourde, en tout cas, sur les biocarburants.
Mais en tout cas, le rôle du sport automobile, c'est aussi d'être un laboratoire. Je pense que la Formule 1 joue bien ce rôle-là en essayant de développer du biocarburant. D'ici 2026, ça sera complètement, le moteur serait déjà un moteur hybride. Hein. Ça, on ne le sait pas trop, mais depuis déjà maintenant 7 ans, c'est un moteur hybride. Donc un moteur électrique plus un moteur thermique.
Ça, les gens ne le savent pas. Je pense que dans l'inconscient, on se dit encore beaucoup essence, alors qu'en fait, il y a déjà eu cette mue qui est en cours.
Exactement. Il y a une transformation, en tout cas, sur... ce qu'on appelle l'unité de puissance, donc entre guillemets le moteur, qui est réalisé déjà depuis une dizaine d'années et qui va sur ces sujets-là et qui est très impliqué sur ces sujets-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, notre responsabilité en tant qu'organisateur, elle est forte. Alors, il y a plusieurs Grands Prix dans le monde. Nous, on n'est vraiment que le Grand Prix de France. Quand on revient en 2018, d'intégrer ces notions-là, d'éco-responsabilité, mais de sociale, elle est inhérente, elle est clairement intégrée à notre raison d'être. Donc c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille depuis 2018. Et puis comment on l'a adressé, nous? Alors forcément, on l'a adressé sur le détail, sur toute une série de sujets. Mais notre grande force, c'est qu'on a su en fait régler deux problèmes. On va reparler des problèmes de mobilité en 2018. Mmh. On a voulu régler les problèmes de mobilité, mais en ayant travaillé sur le sujet plus en profondeur, on a aussi tenté de régler un problème qui concerne tous les grands organisateurs d'événements, qui est le transport des spectateurs.
D'accord.
Ça représente l'intégralité, enfin la plus grande majorité en tout cas de l'empreinte carbone d'un événement, c'est le déplacement spectateur.
Ah oui, donc ça c'est pris en charge maintenant par des réflexions sur des voitures, des partenariats avec des voitures électriques et des choses comme ça, c'est ça, tu intègres dans votre réflexion.
Alors ça
ne
l'était pas à l'époque. Mais
jusqu'à présent,
ça arrive. Quoi. Voilà, on a décidé de l'intégrer, donc c'est quoi? C'est de faire des partenariats avec... C'est la SNCF, faire des partenariats, donc la possibilité de venir de Paris directement au circuit avec des navettes, avec le TER, la région sud sur le TER pour forcer les gens à prendre le TER. C'est aussi de gratifier les gens qui ont une démarche éco-responsable en venant. Mmh. Donc, c'est-à-dire que 65% de nos spectateurs qui sont venus en 2022 ont utilisé un mode de transport alternatif. Quand je dis alternatif, c'est soit ils ont utilisé nos parkings relais, parce qu'on avait presque une dizaine de parkings relais, où les gens venaient se garer en parking relais, on les emmenait en navette au circuit. C'est soit venir en covoiturage. Quand ils venaient à plus de 4 dans une voiture, minimum 4 dans une voiture, ils avaient la possibilité gratuitement de se garer juste derrière leur tribune. C'est de demander aux gens de...
Et donc toi, tu as eu toutes ces infos. Tu sais comment les gens sont venus. C'est incroyable quand à t'écouter, vous avez vraiment
et
tout
on
prévu.
A
développé...
Alors, on a vraiment poussé très loin parce que c'est des sujets qu'on a travaillé avec des startups qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle pour modéliser les flux, pour essayer de réduire un maximum le nombre de venus en voiture. Et puis, ceux qui voulaient vraiment se garer au plus proche de leur tribune et venir tout seul ou à deux, ils devaient payer un prix assez restrictif, hein, mais en tout cas le but c'était de dire à ces clients-là, vous financez la mobilité des autres personnes qui viennent au circuit, mais qui prennent un peu plus de temps, qui ont décidé, écoutez, moi je vais en parking relais, je vais attendre en parking relais, je vais prendre ma navette. Et puis je vais venir en circuit en navette.
Bravo Pierre. En tout cas, t'écouter, c'est beaucoup d'événements pourraient s'en inspirer. Je ne sais pas si tout l'événementiel en est déjà à stade de maturité sur les déplacements des usagers, mais c'est assez marquant ce que tu dis. Et puis ça montre aussi que Formule 1 finalement devient comme un labo aussi pour l'industrie automobile ou cette chaîne. Cette filière, en fait, de réflexion et d'avancement
sur
ces sujets.
Il nous arrive de rencontrer il m'arrive de rencontrer d'autres personnes en charge de ces sujets-là pour d'autres grands événements sportifs. Il est vrai que ça s'intéresse fortement à ces sujets-là, nous, on partage beaucoup notre expérience. Et puis aussi, on commence à partager... beaucoup sur le social, etc. Donc non, vraiment, il y a une transformation.
Ça fait plaisir parce que nous, on a reçu Fabrice Bonifay de Bouygues qui est vraiment sur l'angle de la construction et on parlait à quel point aujourd'hui, c'était un challenge pour les industries, les secteurs de passer ce pas. Et quand on t'entend, c'est super de se dire que quand on commence à implémenter ça vraiment dans son activité, c'est ça qui va faire changer les choses petit à petit. Donc, si c'est un long run, on le sait, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais déjà que vous intégriez tout ça dans votre réflexion,
c'est essentiel.
C'est intéressant.
C'est même essentiel sur plusieurs plans. Mais je pense qu'il y a un plan aussi qui est aujourd'hui dans une entreprise, les salariés, les employés d'une entreprise. En 2022, ont vraiment cette ambition-là, ont vraiment ces envies-là on fait une activité qui peut avoir un impact sur la planète, mais comment nous, au quotidien, on réalise des actions qui vont nous permettre de les limiter, voire de les réduire, voire la neutralité. Et moi, ce travail-là, j'en suis le coordinateur, parce qu'en fait, tous les directeurs de pôle du Grand Prix de France, que ça soit en logistique, en opérationnel, en ticketing ou n'importe quel autre pôle, ils avaient déjà en eux cette volonté-là d'avancer sur ces sujets. Nous, on a toujours... bien sûr qu'on on en a parlé récemment, mais on a mis 3 ans on analyse, on mesure, on réalise des actions. Et une fois qu'on a les actions, peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'on n'en parlera pas, mais pas le contraire.
Super, le message est super bien passé sur ce sujet-là. Alors, on arrive sur la toute fin du podcast. Moi, j'ai une petite question sur tes goûts. Alors, c'est une question que je pose toujours aux invités. Sur tes goûts, tu as un peu parlé déjà de séries, mais tes goûts en termes de cinéma, musique, ça peut être lecture, ça peut être aussi dans le sport, dans d'autres sports, des docus qui t'ont marqué dans le basket ou autre. Mais quelles sont des œuvres qui t'accompagnent soit récemment, soit de manière générale?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question, ça.
Je sais pas. La pose toujours pour un peu mieux connaître les invités et d'être un peu plus sur le terrain personnel.
Ouais, en termes de bouquins, là, j'ai lu un bouquin que j'ai beaucoup aimé, qui est de Julien Gracq, qui s'appelle Le Rivage des Sirtes.
Ah oui, moi, ça, tu fais dans les fondamentaux, là.
Je l'avais pas lu et j'ai pris une grosse claque il y a quelques jours. D'accord. Et sinon, j'ai un goût assez prononcé pour les romans de science-fiction, j'aime beaucoup.
D'accord.
Et les romans d'anticipation.
Comme qui, par exemple?
Bah là, je suis en train de finir Le Cycle des robots, tu vois, de Asimov.
Ah oui, Asimov. Donc, c'est des grands auteurs. Donc, tu adores Arthur C. Clarke aussi.
J'ai lu pas mal de choses, ouais.
2001, parce qu'il est un de mes films préférés de Kubrick.
Qui est un super film
qui
aussi.
Qui était évidemment, il y avait le roman d'Arthur C. Clarke qui avait accompagné.
D'ailleurs, j'ai bien aimé un film, Eyes Wide Shut, qui est un film que j'aime beaucoup
son
aussi.
Son dernier film de Stanley Kubrick. Et sinon, côté, il y a d'autres choses, côté cinéma, musique ou qui te marque?
Cinéma, c'est j'ai un peu une je regarde un peu des vieux films des années 70.
Ouais, on voit ça dans ta culture, t'as beaucoup les fondamentaux, tu réponds Julien Gracq, on est sur des choses assez universelles.
Mais parce que
c'est vrai que souvent les gens peuvent être sur des choses très récentes, mais on oublie parfois les grands basiques.
Mais peut-être parce que j'ai fait trop de récents et que je suis en train de rattraper le temps perdu.
Non, mais ça c'est bien pour les auditeurs parce que souvent on a tout à axer et finalement on va se faire le dernier truc alors qu'il y a des fondamentaux à faire. Alors ça d'ailleurs quand on parlait de musique, les coureurs de Formule 1 écoutent de la musique quand ils font leur course, tu penses la plupart ou pas?
Ah non, pas du tout.
Ils peuvent pas.
Ah mais non, parce qu'ils sont en lien permanent avec
une grosse bêtise.
Ouais,
dans le
une
micro.
Grosse bêtise. Ouais.
Aucun pourrait le faire?
Non, c'est impossible.
C'est impossible. Ouais. D'accord. OK. Donc
non, parce qu'en fait, si tu es, ils sont en lien direct en continu.
Il y a trop d'impact sur le sonore.
Ils sont en radio avec leur ingénieur en fait. Donc ils reçoivent continuellement toute une batterie d'informations sur la technicité de leur voiture, sur toute une série de détails, et ils échangent comme ça.
Le son fait partie inhérente de la conduite et de la réactivité. Et alors t'as mentionné Charles Leclerc en off micro, donc c'est vraiment un nouveau grand champion. Donc c'est France revient beaucoup sur le terrain.
Il est monégasque, mais c'est un peu
il est pas loin de la France. On
il
va
est
dire.
Pas loin. Il est, mais c'est vrai qu'on en parlait en off. C'est un pilote que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de le côtoyer pas mal et à chaque fois que je le vois, il y a une petite salutation. C'est vraiment quelqu'un humainement sympa. Et puis, je pense qu'il a beaucoup de talent. Effectivement, cette année, Max Verstappen semble gagner le championnat, ou en tout cas, il semble que Max risque de gagner le championnat. Mais si j'ai une préférence, ça serait pour Charles, et j'espère qu'un jour, il sera champion du monde.
Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui? C'est son calme, parce que j'imagine Formule 1, c'est vraiment, faut avoir un sacré self-control.
C'est sa personnalité, son talent aussi, parce que c'est quelqu'un de talentueux et je trouve que c'est un grand pilote.
Bon. Et toute dernière question, le conseil que tu donnerais, un ou une jeune qui se retrouve un peu comme toi il y a 10 ans en école et qui veut travailler dans ce secteur. Toi, ce que t'as tiré comme leçon et ce que tu conseillerais?
Oula, c'est un secteur qui a beaucoup de demandes, malheureusement pas assez de place, mais je dirais de vraiment rien lâcher, de démontrer un maximum sa motivation, et ça finit toujours par fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il faut pas aller dans ce secteur-là.
D'accord, donc une bonne ténacité.
Et c'est pas un bon secteur.
Voilà. Une bonne dose de motivation. Voilà. Merci beaucoup Pierre, c'était un plaisir de t'accueillir pour cet épisode de l'Entertainment Lab.
Merci à toi Alexis.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.